Bonsoir à tous, à toutes. Merci de votre présence ici ce soir au foyer Notre-Dame. Nicolas Millot, je suis le responsable de l'Observatoire sociétal diocésain. Et donc j'ai la lourde tâche de rythmer un petit peu la soirée. L'Observatoire sociétal diocésain, donc juste vous dire quelques mots ce que c'est. Donc c'est une instance placée auprès de Mgr Bouilleret. Nous sommes un groupe d'une petite dizaine de bénévoles, originaires des différentes communes, pays, caractéristiques de notre diocèse. Et on essaye de représenter par nos activités professionnelles présentes ou passées, par nos origines sociales, par nos réflexions, nos convictions, une forme de diversité qui est à l'image de notre diocèse. Nous sommes tous bénévoles, nous nous réunissons, nous croisons nos regards, nous sommes un observatoire, et en fonction de ce que nous observons des réalités du diocèse, mais aussi inscrites dans des débats et des réflexions nationales, internationales, nous pouvons être amenés à organiser des conférences, à produire des publications. Donc cette conférence ce soir est une des actions que nous menons. Voilà, et juste vous dire que nous travaillons sur 4 chantiers prioritaires, donc l'Europe, mais également le délaissement rural, c'est-à-dire toutes les questions de fracture territoriale et tout l'avenir du monde rural, la question de la grande pauvreté, et enfin, dernier grand chantier que nous engageons, la relation entre élus politiques et Église. Donc l'Europe, comme je le disais, est un des chantiers prioritaires. Pourquoi ? C'est aussi parce qu'on observe bien et on sait bien combien c'est une réalité qui peut apparaître lointaine, à Bruxelles, à Strasbourg, à l'occasion de grandes réunions d'élus, mais c'est également un concept, une réalité qui touche le développement de notre agriculture qui est si fort dans notre diocèse, le développement de services publics, la mobilité. Et donc à ce titre-là, ça nous a vraiment semblé important de vous proposer cette soirée. Donc elle sera en 3 temps, une première intervention de Mgr Hérouard qui représente donc les évêques de France à la Comessée. Oui. Voilà. Il vous dira, voilà. En fait, la réunion des conférences épiscopales d'Europe, chaque conférence épiscopale donc, délègue un représentant au niveau européen, donc c'est cette instance auquel contribue et participe Mgr Hérouard. Nous aurons ensuite 2 courts témoignages sur des réalités diocésaines. Et dans un troisième temps, nous pourrons avoir un débat. Donc nous prendrons le temps d'échanger, de répondre à vos questions. Et puis voilà, certains d'entre vous pourront aussi répondre à des questions. Voilà, ce sera assez libre. Il faudra bien sûr organiser tout cela pour que chacun puisse prendre la parole. Mais voilà, ce sera en tout cas un temps d'échange pour terminer autour de 22h. Je vous cède la parole, Monseigneur.
Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir donc pour vous parler un petit peu de l'Europe et puis du travail qui se fait donc au sein de la Comessée. Comessée, ça veut dire la Commission des Épiscopats de l'Union européenne. L'origine, c'était de la Communauté européenne, mais on a gardé le sigle, mais maintenant on dit de l'Union européenne, puisque c'est la réalité politique dont il s'agit. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que l'on y fait. Alors, l'Europe n'a pas très bonne presse, hein, c'est une évidence. Elle est jugée souvent lointaine, technocratique, inefficace, enfin voilà, le genre de reproche qu'on entend souvent. Et puis, on voit aussi que sur certains domaines, elle n'arrive pas à définir des politiques communes. Un exemple flagrant, on y reviendra puisque c'est un des thèmes qui sera ensuite abordé, autour de la question des migrants et de l'accueil des réfugiés. Voilà, on n'a pas réussi à trouver. Il y a aussi, dans les difficultés, ce qu'on appelle la montée des populismes ou des nationalismes dans différents pays, à l'est de l'Europe, on pense à la Hongrie, à la Pologne d'une certaine façon, mais aussi maintenant l'Italie et puis la présence aussi dans un certain nombre de pays. L'Europe, c'est aussi, dans les difficultés, le clivage est-ouest, qui est une réalité, on y reviendra aussi. Ce sont souvent les égoïsmes nationaux qui font que quand quelque chose va bien dans un pays, on dit voilà, c'est grâce au gouvernement. Et quand ça ne va pas, on dit que c'est la faute de Bruxelles. Voilà. Alors je caricature, mais enfin, il y a un peu de ça quand même. Et finalement, les citoyens n'ont pas toujours une perception claire de la manière dont l'Union européenne participe, finance un certain nombre de réalités dans nos régions, localement. Voilà. On peut voir aussi, alors ça c'est une question un petit peu nouvelle, mais les difficultés ou l'inexistence, en tout cas à ce jour, d'une Europe de la défense, Par exemple, pour prendre un exemple très récent, nos amis belges, qui sont quand même très européens dans l'ensemble, devaient changer leurs avions de militaires, leurs avions de chasse. Et il y avait le choix entre trois avions, un avion suédois, un avion français, le Rafale, et un avion américain. Et ils ont choisi l'avion américain. Bon. Et apparemment, ce n'était pas pour seulement, enfin, pas d'abord pour des questions techniques, ou de, c'est un choix plus politique. Il y a aussi toutes les questions autour du Brexit. Si les enjeux n'étaient pas si graves, on pourrait se dire que c'est un feuilleton presque comique, parce que il y a des rebondissements incessants. Mais voilà, on voit qu'il y a derrière des enjeux qui touchent non seulement l'équilibre économique du continent et puis à la relation future entre la Grande-Bretagne et l'Europe, mais aussi qui touchent à la paix à travers la question irlandaise. Donc ça fait beaucoup de questions qui sont des questions d'ordre politique, mais qui, et c'est là-dessus que je voudrais insister, qui concernent et qui intéresse l'Église en tant que telle, dans sa mission propre. Alors c'est à la fois, pourquoi est-ce que l'Église s'est intéressée et s'intéresse à la construction européenne ? À la fois historiquement, parce que une des missions principales de l'Église en matière politique et entre les États, c'est d'essayer de promouvoir la paix. Voilà. Et donc cet engagement en faveur de la paix, il est très présent dans la construction européenne, et même si pour les jeunes générations, ça semble être quelque chose qui va de soi, l'histoire montre que ça n'est pas toujours le cas et qu'il faut être toujours prudent là-dessus. Moi, je viens donc du Nord, je suis évêque auxiliaire de Lille. L'année dernière, nous avons fêté la fin de la Première Guerre mondiale. Et en parcourant les cimetières militaires qu'il y a partout, en regardant les destructions, les grandes guerres européennes ont complètement dévasté le continent. Pensons quand même qu'entre la France et l'Allemagne, il y a eu 3 guerres en 70 ans. Bon, c'est pas rien. Et que si la paix semble acquise pour les jeunes, elle est toujours très fragile. Après tout, des conflits sont à nos portes. Pensez à l'ex-Yougoslavie, c'était pas si loin que cela. Et je lisais là dans le train un article dans le dernier numéro des études qui manifeste de l'inquiétude sur un conflit qui pourrait reprendre. Pensez à l'Ukraine, c'est aux portes de l'Union européenne. Et puis pensons à d'autres points difficiles comme l'Irlande. Il me semble que l'Europe doit pouvoir être un horizon incontournable de nos démocraties, et elle a permis d'une certaine façon la perspective d'un meilleur bien-être pour tous. Bon, c'est ça le projet européen. Donc il ne s'agit pas d'avoir une démarche incantatoire. Les plus âgés se souviennent des sorties du général de Gaulle dans les conférences de presse où il disait « il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Bon, voilà. Bien sûr, il avait raison sans doute. Mais il s'agit aussi de mettre en œuvre le projet qui a été celui des pères fondateurs de l'Europe et revenir à cette source-là. Et puis de vivre cet horizon de paix, j'insiste là-dessus. Voilà, ça fait maintenant presque 75 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale que nous vivons en paix entre les pays de l'Europe de l'Ouest, en tout cas. Et ceci est un acquis tellement important. Voilà. L'autre élément aussi qu'on peut souligner quand même, c'est que l'Europe a été capable d'accueillir, même si c'est à travers beaucoup de difficultés, et des difficultés qu'on ressent particulièrement aujourd'hui, les pays de l'Est européen, lorsqu'ils sont sortis de la période communiste, donc 1989, la chute du mur de Berlin, 91, la plupart des indépendances, et 2004, l'entrée dans l'Union européenne de 10 nouveaux pays. Voilà, c'est aussi, même si ça a été une décision difficile, peut-être un peu hâtive, selon certains points de vue, d'un point de vue économique en tout cas, mais qui a une signification politique et par rapport à la paix en Europe tout à fait essentielle. Alors peut-être peut-on relire un extrait de ce qui a été le point de départ, la fameuse déclaration de Robert Schuman, donc qui était ministre des Affaires étrangères français, le 9 mai 1950. Le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, voilà, à cause de cette déclaration. C'est la journée de l'Europe. Et voilà ce qu'il disait. C'est vraiment la question de la paix qui démarre. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Donc, conscience de la fragilité de la paix. Et deuxième point aussi important dans cette phrase, c'est que c'est la paix mondiale et pas seulement la paix européenne. Et je pense que, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouvera à plusieurs reprises, c'est que les questions européennes, bien sûr, elles concernent les Européens au premier chef, mais elles ont un impact et des conséquences sur le monde entier. Et le monde entier aussi regarde ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Et pourquoi ? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Robert Schuman continue. La contribution qu'une Europe organisée et vivante, il ne dit pas sous quelle forme, hein, organisée et vivante, peut apporter à la civilisation, donc vous voyez, on est dans quelque chose de très large, est indispensable au maintien des relations pacifiques. Donc l'Europe a un rôle indispensable dans le monde, et on retrouvera ça dans aussi les déclarations des papes successifs. Et puis après, il est réaliste, donc il ne s'agit pas simplement d'une belle utopie qu'on va essayer de promouvoir par tous les moyens. Il dit ceci, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Donc il ne suffit pas d'avoir un beau projet et de dire ensuite, ben, il n'y a qu'à l'appliquer. Voilà. C'est quelque chose qui va être progressif. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Réalisation concrète, solidarité de fait. Voilà, c'est ça qui a été la base du projet européen. Et vous savez qu'on a commencé par le charbon et l'acier. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre. On dit, ben bon, charbon et l'acier, ben pourquoi ? Mais c'est très simple. Hein. C'est parce que c'était les matières premières nécessaires pour les armes, donc pour la construction des canons et des tanks. Et donc c'est ça qu'on a voulu mettre en commun, justement pour créer cette solidarité de fait. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il nous faut aussi réfléchir plus profondément sur la signification de la réconciliation franco-allemande, qui est sans doute un fait quasi unique dans l'histoire. Des pays qui se sont autant fait la guerre, avec autant de victimes, et dans un laps de temps aussi court, pour qu'il y ait une vraie réconciliation, voilà, il y a quelque chose derrière qui les a menés. Au-delà des différences d'approche, des différences économiques et politiques entre les pays qui composent l'Union, ou entre les partis qui vont exprimer la représentation des peuples et qui donc se présentent là au suffrage, aux élections, l'important aujourd'hui, c'est sans doute pour nous de retrouver une âme, un sens à ce que nous essayons de vivre dans cette construction européenne, qui est souvent, bien sûr, il faut le reconnaître, laborieuse et difficile, c'est une évidence. Et puis, il me semble aussi que, comme chrétiens, pour les chrétiens, nous avons un certain devoir de nous y engager avec générosité et avec réalisme. Il ne s'agit pas non plus d'accepter toute chose ou de dire que tout est parfait, c'est pas absolument pas ça le propos. Hein. Mais voilà, la perspective d'ensemble, je pense que pour nous chrétiens, elle doit avoir une résonance particulière. Alors là-dessus, pour illustrer cela, je voudrais souligner que les papes de période récente ont tous exprimé sur la construction européenne et ont tous encouragé, d'une certaine façon, ce mouvement. Alors je ne vais pas vous passer en revue tous les discours parce que ça serait long et fastidieux, mais je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, ben, c'est intéressant parce que quand il a été élu pape, il venait donc de Pologne, comme vous savez, et d'un pays qui était encore un pays communiste. Et donc il a plaidé pour l'accueil des pays communistes dans ce qui allait devenir l'Union européenne. Et l'autre exemple, c'est le pape François, parce que lui aussi, il n'est pas européen. Il vient d'Amérique du Sud, et donc il a un regard peut-être un peu distancié. On dit souvent qu'il ne s'intéresse pas beaucoup aux pays européens, qu'on attend toujours sa visite, etc. Bon, peut-être que c'est vrai. Je l'ai vu là, il y a 15 jours, 3 semaines, et je lui ai reposé encore la question. Il a un peu levé les bras au ciel en disant « Bon, on verra ». Mais en tout cas, sur la construction européenne, il s'est exprimé pas moins dans 5 grands discours depuis son élection, et il a des choses à dire et à rappeler. On va y revenir. Alors, je reprends avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a organisé autour de l'an 2000 des synodes, donc des réunions d'évêques, par continent. Donc, il y en a eu sur les 5 continents, dont un synode sur l'Europe, évidemment. Et après ces synodes, il a publié, comme c'est la coutume, une exhortation, donc, qui s'appelle « Ecclesia in Europa », l'Église en Europe, et qui traite forcément plus de questions pastorales sur l'évangélisation en Europe. Mais il y a tout un chapitre, c'est le dernier chapitre, le chapitre 6, où il traite du rôle de l'Europe, de la vocation de l'Europe dans le monde. Alors d'abord, il rappelle le lien qu'il y a avec la foi chrétienne. Donc si vous voulez retrouver ce texte, c'est facile, vous le trouvez sur Internet, c'est le numéro 108. De l'exhortation. L'histoire du continent européen est marquée par l'influence vivifiante de l'Évangile. Si nous tournons notre regard vers les siècles passés, nous ne pouvons pas manquer de rendre grâce au Seigneur pour le fait que le christianisme a été pour notre continent un facteur primordial d'unité entre les peuples et les cultures et de promotion intégrale de l'homme et de ses droits. Alors je pense que cette phrase est intéressante à plus d'un titre, parce qu'il ne se contente pas de parler des racines chrétiennes de l'Europe. Vous savez que ça a été un sujet de polémique important. Mais il dit que le christianisme a été un facteur d'unité entre les peuples et les cultures. Voilà. Donc il prend le problème un peu dans l'autre sens en disant « L'Europe, elle est déjà unie, ou elle a déjà été unie, en partie, par la foi chrétienne. » Et puis ensuite, c'est le christianisme qui a permis ce qu'il appelle une promotion intégrale de l'homme et de ses droits. Vous savez que Jean-Paul II a été très sensible à la thématique des droits de l'homme. Et on comprend pourquoi. Enfin, il venait d'un pays où voilà, ça n'était pas le cas. Hein. Et donc il a beaucoup plaidé pour les droits de l'homme en disant que le droit à la liberté religieuse était un peu la clé de voûte du système. Un peu plus loin dans le numéro 109... Il invite donc l'Europe à retrouver sa véritable identité. Et puis, il dit ceci, ce paragraphe-là, qui me paraît très intéressant. « Pour donner un nouvel élan à son histoire, l'Europe doit reconnaître et retrouver, dans une fidélité créatrice, les valeurs fondamentales à l'acquisition desquelles le christianisme a apporté une contribution déterminante. » On ne dit pas qu'il n'y a que le christianisme, hein, mais une contribution déterminante. Et donc maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont ces valeurs fondamentales qu'il souligne comme étant finalement l'apport du christianisme à l'Europe et qui constitue la réalité de l'Europe aujourd'hui. Alors, il cite, on peut les résumer ainsi, dans l'affirmation de la dignité transcendante de la personne, voilà, la place de la personne, la valeur de la raison, ça aussi c'est intéressant. Alors d'abord parce qu'il a publié aussi une encyclique là-dessus, sur la foi et la raison. Mais souligner, aujourd'hui où nous sommes à l'époque des fake news, à l'époque de l'émotionnel, des réactions spontanées, des réseaux sociaux, etc., l'importance de la raison, de dire que comment est-ce qu'on peut rendre compte des réalités. Bon. Valeur de la raison, valeur de la liberté, valeur de la démocratie. Certains disent, bah, finalement, la démocratie, on pourrait s'en passer. Non ? Bon. De l'état de droit. On voit que quelquefois, il est un peu malmené. Hein. Regardez les conflits qu'il y a actuellement avec la Pologne, avec la Hongrie, sur cette question de l'état de droit. La distinction des pouvoirs, le respect de l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, voilà, tout ça. Bon. Et la distinction entre politique et religion. Alors, il ne dit pas la laïcité, mais enfin, c'est quand même cette même veine-là qui est dit. Donc il dit que c'est ça, les valeurs fondatrices de l'Europe auxquelles le christianisme a apporté un éclairage tout à fait intéressant. Un peu plus loin, paragraphe 111, et là ça rejoint plus la problématique autour des migrants, l'accueil des réfugiés, il parle de l'ouverture. Dire Europe doit vouloir dire ouverture. Malgré les expériences et les signes contraires qui d'ailleurs n'ont pas manqué, c'est son histoire même, l'histoire de l'Europe, qui l'exige. L'Europe n'est pas vraiment un territoire clos ou isolé. Elle s'est construite en allant au-delà des mers, à la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres civilisations. Donc il dit, voilà, l'Europe, elle est allée partout. Hein, elle est allée partout dans le monde. Et elle s'est ouverte. C'est pourquoi l'Europe doit être un continent ouvert et accueillant, qui continue à pratiquer dans l'actuelle mondialisation, il emploie le terme en 2004, des formes de coopération, non seulement économique, mais également sociale et culturelle. Voilà, une Europe ouverte et une Europe qui vit des échanges entre les peuples, les cultures, les civilisations. Après aussi, numéro 112, l'Europe doit prendre une part active dans la promotion et dans la mise en pratique d'une mondialisation de la solidarité. Là aussi, c'est une expression qui est intéressante, parce qu'elle fait écho aussi à une phrase du pape François. Vous vous souvenez, au tout début de son pontificat, il est allé à Lampedusa, la petite île au sud de la Sicile, où arrivaient de nombreux réfugiés, et il avait parlé d'une mondialisation de l'indifférence. Et Jean-Paul II, lui, avait dit, il faut que l'Europe soit active dans la promotion de la mondialisation de la solidarité. Voilà. Il faut ajouter une sorte de mondialisation de la solidarité, des valeurs connexes, d'équité, de justice, de liberté, etc. Après, il va parler même plus directement, concrètement, de la construction européenne, hein, des institutions européennes. Alors, ça me permet de faire une petite incise aussi, pour bien distinguer, parce que tout le monde ne voit pas toujours bien la différence, entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une instance donc, qui a été créée en 1950 par la Convention européenne des droits de l'homme et qui siège à Strasbourg et qui réunit tout le continent. Je crois que c'est une quarantaine de pays. Combien ? 47, vous voyez, c'est même plus que ça. Mais alors ça va donc jusqu'à la Russie, l'Ukraine, les pays du Caucase, la Turquie, etc. Voilà. Bon. Et cette instance s'occupe exclusivement des droits de l'homme. Voilà. Et puis, la Communauté économique européenne, qui est devenue ensuite donc l'Union européenne, pour laquelle donc nous allons voter pour les députés dans quelques semaines, l'Union européenne, donc, qui a son siège à Bruxelles, même si le Parlement se déplace entre Bruxelles et Strasbourg. Évidemment, la France est attachée au fait que ça ait lieu, que le Parlement soit à Strasbourg. En fait, je ne sais pas si ça n'a sans doute pas les promesses de la vie éternelle. Hein. Ça me paraît quand même une construction un peu bancale. Bon, voilà. Bon. Et ça coûte extrêmement cher. Et donc ça veut dire que chaque mois, on transporte des par-trains et des malles entières de dossiers, de tout ça, bon, pour aller de Bruxelles à Strasbourg. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur l'Union européenne, Jean-Paul II ? Il dit l'Union européenne avec son Parlement, le Conseil des ministres, la Commission, propose un modèle d'intégration qui se perfectionne progressivement dans la perspective d'adopter un jour une charte fondamentale commune. Alors, on était dans la période où on discutait sur le projet de constitution européenne, dont vous savez qu'il a échoué, entre autres à cause du référendum français, donc qui a été négatif en 2005. Donc, mais à l'époque, Jean-Paul II pensait que ça allait aboutir. Voilà, enfin, il espérait en tout cas. Et alors, il dit, cet organisme, donc l'Union européenne, a pour but de réaliser une plus grande unité politique, économique, monétaire entre les États membres, aussi bien les membres actuels que ceux qui en feront partie à l'avenir, puisqu'ils savaient que l'année suivante, on allait accueillir donc les pays anciennement communistes. Voilà. Et il ajoute, dans leur diversité, ces institutions ont pour but de promouvoir l'unité du continent et plus profondément sont au service de l'homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le dit pas ni au futur ni au conditionnel, mais il le dit au présent. Dans son esprit, c'est au service de l'homme et c'est ça promeut l'unité du continent. Voilà. J'arrête sur Jean-Paul II. Je passe au pape François. Alors, il a donc prononcé, je vous disais, 5 grands discours. Alors, il y en a un. Ils ont été publiés il n'y a pas très longtemps dans un petit livre qui s'appelle « Repenser l'Europe », que vous pouvez trouver facilement, je pense. Le premier, c'est lorsqu'il est allé à Strasbourg, justement, en 2014. Il a fait donc 2 visites, une au Parlement européen, le Parlement de l'Union européenne, et ensuite au Conseil de l'Europe, suivant la distinction que je vous ai présentée. Donc ça, c'était le 25 novembre 2014. Ensuite, en 2016, il a reçu le prix Charlemagne. Et le prix Charlemagne, c'est, on va dire, la grande récompense européenne. C'est un peu le prix Nobel européen, si vous voulez. Voilà. Donc un certain nombre de chefs d'État l'ont reçu, et lui, il l'a reçu donc en 2016. Donc à cette occasion, il a fait un grand discours au Vatican. Ensuite, il a reçu les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, c'est-à-dire de la fondation de la Communauté économique européenne. C'était en mars 2017, donc il y a 2 ans. Et puis, et c'est ce dernier discours que je vais vous présenter plus en détail, il y a eu un colloque au Vatican en octobre 2017, donc il y a 1 an et demi, qui a été organisé conjointement par la COMECE et par la secrétaire d'État, c'est-à-dire le Vatican lui-même, hein, et dans lequel ce colloque, il y avait des évêques, il y avait des hommes politiques, il y avait des responsables économiques, il y avait des philosophes, il y avait, etc., sur repenser l'Europe. Voilà. Bon. Et donc, conclusion de ce colloque, qui a duré 3 jours, le pape a prononcé un grand discours où il a traité de quel peut être l'apport des chrétiens à la construction européenne, quel est le rôle des chrétiens dans l'Union européenne. Alors, il y a 7 points, je vais passer en revue d'abord. La première et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à l'Europe d'aujourd'hui, c'est de lui rappeler qu'elle n'est pas un ensemble de chiffres ou d'institutions, mais qu'elle est faite de personnes. Donc la première chose, c'est les personnes. Malheureusement, on remarque, comme souvent, tout débat se réduit facilement à une discussion de chiffres. Il n'y a pas les citoyens, il y a les suffrages. Il n'y a pas les migrants, il y a les quotas. Il n'y a pas les travailleurs, il y a les indicateurs économiques. Il n'y a pas les pauvres, il y a des seuils de pauvreté. Le caractère concret de la personne humaine est ainsi réduit à un principe abstrait, plus commode et plus apaisant. On en saisit la raison. Les personnes ont des visages. Elles nous obligent à une responsabilité réelle, active, personnelle. Les chiffres nous occupent avec des raisonnements. Certes utiles et importants, mais ils resteront toujours sans âme. Ils nous offrent l'alibi d'un désengagement parce qu'ils ne nous touchent jamais dans la chair. Voilà, les personnes. Deuxième contribution qui va avec, le fait d'être des personnes nous lie aux autres et nous fait être communauté. Et donc la deuxième contribution que les chrétiens peuvent offrir à l'avenir de l'Europe est la redécouverte du sens de l'appartenance à une communauté. Et il souligne que ce n'est pas un hasard si les pères fondateurs du projet européen ont choisi précisément ce mot de communauté pour identifier le nouveau sujet politique qui se constituait. Bon, alors on est passé de la communauté à l'union. L'union, c'est un terme plus politique, qui a sa valeur hein, aussi, l'Union européenne. Mais voilà, dans l'idée de communauté, il y a bien l'idée aussi que on a des choses en commun et qu'on doit partager quelque chose. Hein. Voilà, et pas simplement défendre ses propres intérêts. La communauté est le plus grand antidote contre les individualismes qui caractérisent notre temps, contre cette tendance aujourd'hui répandue en Occident à se considérer et à vivre dans la solitude. Bon, voilà, j'insiste pas trop. Troisième caractéristique, c'est la question du dialogue. Alors, il y a un petit paragraphe qui, à mon avis, là c'est plus sur le terrain national, franco-français, mais enfin, c'est vrai aussi au niveau européen, peut aussi éclairer un certain nombre de débat ou de difficulté que rencontre notre pays. Favoriser le dialogue, dit-il, tout dialogue, c'est une responsabilité fondamentale de la politique. Et malheureusement, on observe trop souvent comment elle se transforme plutôt en lieu d'affrontement entre des forces opposées. La voie du dialogue est remplacée par les hurlements de revendications. À bien des endroits, on a le sentiment que le bien commun n'est plus l'objectif premier poursuivi et ce désintérêt est perçu par de nombreux citoyens. Cette phrase-là, à mon avis, est très importante parce que c'est cette non-perception d'un bien commun qui fait que chacun défend son bien individuel et que du coup, personne n'est content jamais. Alors c'est vrai au niveau européen, mais c'est vrai aussi au niveau national, je pense, que, voilà, cette perception du bien commun. Ainsi trouve un terrain fertile dans beaucoup de pays les formations extrémistes et populistes qui font de la protestation le cœur de leur message politique, sans toutefois offrir l'alternative d'un projet politique constructif. Le dialogue est remplacé ou par une opposition stérile, qui peut même mettre en danger la cohabitation civile, ou bien par une hégémonie du pouvoir politique qui emprisonne et empêche une vraie vie démocratique. Voilà. Donc je pense qu'il souligne très bien les dangers qui menacent la vie démocratique en Europe aujourd'hui, non ? Par cette incapacité finalement à dialoguer et à définir un bien commun européen ou un bien commun national, suivant le domaine dans lequel on se situe. Quatrième point, donc quatrième contribution des chrétiens à l'avenir de l'Europe, c'est la question, il appelle ça un domaine inclusif, une communauté inclusive. Et là, il va traiter directement la question des migrants. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit, parce qu'il le dit assez clairement, et vous verrez qu'il a une position qui est à la fois forte, mais en même temps, je pense, équilibré. Il dit ceci. Dans cette perspective de l'inclusion, les migrants sont une ressource plus qu'un poids. Les chrétiens sont appelés à méditer sérieusement l'affirmation de Jésus « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli », donc Matthieu 25. Face au drame des déplacés et des réfugiés, on ne peut pas oublier le fait qu'on est devant des personnes, on y revient, toujours les personnes, qui ne peuvent pas être choisies ou rejetées, selon le bon vouloir, suivant les logiques politiques, économiques, voire religieuses, question de l'islam. Cependant, cela n'est pas en opposition avec le droit de chaque gouvernement de gérer la question migratoire avec la vertu propre au gouvernement, c'est-à-dire la prudence. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut ouvrir ses portes à tout un chacun comme on veut et comme on veut sans condition. Donc il dit cela. Et cette prudence qui doit tenir compte aussi bien de la nécessité d'avoir un cœur ouvert que de la possibilité d'intégrer pleinement au niveau social, économique, politique ceux qui arrivent dans le pays. On ne peut pas penser que le phénomène migratoire soit un processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d'indifférence ou de peur. Vous voyez ? De leur côté, les migrants eux-mêmes ne doivent pas négliger le devoir grave de connaître, de respecter, d'assimiler la culture ainsi que les traditions de la nation qui les accueille. Donc vous voyez, tout le monde a des droits et des devoirs. Cinquième caractéristique, l'Europe doit être un espace de solidarité. Et alors là, il y a une chose qui paraît un peu... Donc solidarité entre les nations européennes, ça paraît assez évident. Si on se met ensemble, c'est pour pouvoir partager un certain nombre de choses. Mais il souligne aussi un autre aspect qui est peut-être moins marqué spontanément, qui est la question démographique et la question des générations. Il dit « Depuis les années 60, on assiste à un conflit des générations sans précédent en Europe. En remettant aux nouvelles générations les idéaux qui ont fait la grandeur de l'Europe, on peut dire de manière hyperbolique qu'à la tradition, le fait de transmettre, on a préféré la trahison. Au rejet de ce qui provenait des pères, a ainsi succédé le temps d'une stérilité dramatique. Et il souligne l'hiver démographique qui existe en Europe. Alors nous, en France, on s'en rend moins compte parce que notre situation démographique est la meilleure ou la moins mauvaise, en tout cas, des pays européens à égalité avec l'Irlande. Mais nos grands voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, sont des pays dans lesquels il n'y a pas d'équilibre démographique. Il y a plus de décès que de naissances. Et puis, vous avez un autre problème, qui est le problème des... Quand on pense aux migrations, nous, on pense spontanément aux gens qui viennent d'ailleurs, hors d'Europe. On a eu les réfugiés d'Irak et de Syrie, après les gens qui viennent d'Afghanistan, les gens qui viennent d'Afrique noire, etc. Bon, bien. Mais il y a aussi beaucoup de migrations intra-européennes. Et vous avez un certain nombre de pays de l'Est européen qui se vident de façon très conséquente de leur population. Un pays comme la Bulgarie a perdu presque un tiers de sa population depuis qu'ils sont membres de l'Union européenne. Des pays comme les pays baltes, alors pourquoi ? Parce que d'abord les jeunes ne trouvent pas de travail sur place, et puis l'aspiration à une vie meilleure ou plus facile, ils vont la chercher dans l'Europe occidentale, ou ils vont la chercher ailleurs, en Amérique, au Canada, en Australie, etc. Voilà. Donc cette question-là est une question très importante. Et je pense que cette question-là, elle éclaire aussi les différences d'approche sur la question des migrants. Quand Mme Merkel accueille 1 million de migrants en 2015-2016, 1 million, bon, c'est beaucoup, elle le fait certainement par générosité, mais elle le fait aussi parce que c'est l'intérêt bien compris de l'économie allemande. Parce qu'ils ont un besoin réel de main-d'œuvre et qu'elle sait très bien que cette question démographique va s'aggraver. Voilà. Donc il faut avoir ça aussi en tête pour comprendre les questions. Et puis, sur cette question-là du conflit de génération, il dit finalement la jeunesse en Europe est aujourd'hui assez maltraitée. Beaucoup de jeunes se trouvent désemparés face à l'absence de racines et de perspectives. Ils sont déracinés, secoués, menés à la dérive par tous les courants d'idées. Parfois également prisonniers d'adultes possessifs qui ont du mal à assumer leurs devoirs. Bon, voilà. Je n'insiste pas plus, mais voilà. Il y a un enjeu là qui est important. Sixième caractéristique, l'Europe doit être une source de développement. Et là, il reprend ce qu'avait dit le pape Paul VI en son temps dans la fameuse encyclique sur le développement, Populorum Progressio, en 1967. Pour être authentique, le développement doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme, l'homme dans toutes ses dimensions. Nous n'acceptons pas de séparer l'économique de l'humain, le développement des civilisations où il s'inscrit. Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. Et il parle ensuite du travail. Septième caractéristique, c'est celle par laquelle moi j'ai commencé, c'est la question de la paix. Donc je n'en dis pas beaucoup plus, mais pour lui, la paix va être possible si toutes les autres caractéristiques sont mises en œuvre. Et ça, c'est le rôle des chrétiens en Europe. J'aborde maintenant une troisième partie, qui est la présence institutionnelle de l'Église en Europe. Alors, elle s'est faite d'abord, enfin, en plusieurs étapes. Première étape, ça peut paraître un peu bon comme ça, en 1970, il y a eu la nomination d'un nonce auprès de la Communauté économique européenne. Alors, qu'est-ce que c'est un nonce ? C'est à la fois l'ambassadeur du Vatican et, normalement, dans un pays, c'est le représentant du pape vis-à-vis de l'Église locale. Mais Communauté économique européenne, il n'y a pas d'Église locale, ce n'est pas un pays. Bon. Mais en même temps, c'est très significatif qu'on ait nommé un nonce et pas seulement un observateur. Par exemple, à l'ONU, il y a un observateur du Saint-Siège. À Paris, auprès de l'UNESCO, c'est un observateur. À Strasbourg, auprès du CCE, du Conseil de l'Europe, je veux dire, c'est un observateur. Voilà. Là, c'est un nonce, ça veut dire qu'on prend en compte le fait que l'Union européenne, c'est pas simplement une organisation internationale. C'est une entité politique, économique, culturelle, en devenir, certes, mais une entité qui a une consistance propre. Voilà, création d'une once. Ensuite, la COMECE, donc la Commission des épiscopats de la communauté européenne, a été créée en 1980. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne, il y a un représentant par conférence épiscopale de pays membres de l'Union. Donc ça, au fur et à mesure que l'Union a grandi, on a ajouté des membres à la COMECE. Donc, alors il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas 28, ou demain 27, parce que ça ne regroupe pas tout à fait les pays. Par exemple, les pays d'Europe du Nord, ils ont une seule conférence épiscopale pour 5 pays, parce qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques. Bon. À l'inverse, nos amis britanniques, tant qu'ils sont encore là, eux, ils en ont 3, parce qu'il y a la conférence d'Angleterre et Pays de Galles, Écosse et Irlande. Et l'Irlande, je disais ça à table là tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est la même conférence épiscopale pour le Nord et le Sud. Et le représentant à la COMECE, c'est un évêque qui vient du Sud et qui est évêque de Down and Connor, c'est-à-dire de Belfast, au Nord. Et puis même en Irlande, il y a un diocèse qui est à cheval sur la frontière. Donc dans 2 pays avec 2 monnaies. Si demain, avec le Brexit, il y a une frontière en dur, avec des contrôles et tout ça, vous imaginez ce que ça peut faire. Bon, voilà. Alors, les Irlandais, de toute façon, eux, ils resteront dans la COMECE. Alors ensuite, le rôle de la COMECE, il est aussi défini dans les traités européens. Ça, pour ça, ça nous semble un peu étrange. Nous, on est habitués à la laïcité française, voilà, séparation de l'Église et de l'État. On a des relations, bien sûr, mais il n'y a pas de choses tellement institutionnalisées. Alors que dans les traités européens et dans le traité de Lisbonne, donc l'actuel traité, vous avez un article, c'est l'article 17, qui dit que l'Union européenne entretient un dialogue, alors il y a 3 adjectifs, ouvert, transparent et régulier avec les églises, pas seulement l'Église catholique, mais les églises. Et donc ça veut dire aussi que l'Église n'est pas considérée comme un lobby. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de lobbies, de représentants d'intérêts. Alors, nous, en France, on a une notion très négative des lobbies. En Europe, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus de dire que c'est des gens qui présentent tel ou tel intérêt et qui vont attirer l'attention des décideurs, des parlementaires, de la Commission, sur le fait que si on prend telle décision, ça a telle conséquence. Voilà. Alors, l'Église n'est pas un lobby, à la fois parce qu'elle est inscrite dans les traités, et ensuite, parce qu'elle ne défend pas un intérêt particulier. Je veux dire, l'organisation de l'Église catholique ne dépend pas de l'Union européenne. Hein, mais elle défend une certaine idée d'un bien commun européen, ce qu'a dit le pape François, par exemple. Voilà. Bon. Alors, dans ce dialogue ouvert, régulier, transparent, ça veut dire qu'il y a des rencontres régulières chaque année avec la Commission européenne. Donc là, j'étais au mois d'octobre avec le vice-président de la Commission, M. Timmermans, qui est hollandais, qui se présente d'ailleurs aux élections comme le chef de file des socialistes en Europe. Et lui, on a passé une matinée et un déjeuner avec, il y avait 2 représentants catholiques, 2 représentants protestants, un orthodoxe, un anglican, un juif, un musulman et une bouddhiste. Et on a parlé de qu'est-ce qui est prioritaire pour l'avenir de l'Europe. Voilà. Bon. Alors, je veux dire que ce n'est pas ça qui fait toute la politique européenne. Mais voilà, si on a quelque chose à dire, on peut le dire. Bon. Hein, bon. Même chose avec le Parlement européen. Ben, quand on est venu avec les évêques français, la délégation qui est venue, donc avec Mgr Bouilleret, au mois de décembre, on a assisté, c'était un peu le hasard ce jour-là, il y avait un débat au Parlement européen, dirigé par Mme McGuinness, qui est irlandaise et vice-présidente du Parlement, sur la manière dont les différentes religions étaient impliquées sur la question des droits de l'homme. Donc, vous voyez, il y a ce dialogue-là qui est régulier. Ensuite, il y a un secrétariat permanent à Bruxelles. Le secrétaire général, actuellement, c'est un Français qui va terminer son mandat là cet été, d'un dominicain, le frère Olivier Poquillon. Et lui, il est avec son équipe, il a autour de lui un certain nombre d'experts, ils sont en contact régulier, quotidien, avec les responsables de la Commission, avec des députés des différents pays, et pas seulement des députés catholiques d'ailleurs, des députés, pour donner leur avis sur tel projet de directive, sur telle politique qu'on entreprend, en positif, en négatif, proposer des amendements. On peut même rédiger des amendements. Et il est arrivé plusieurs fois que des amendements qui avaient été rédigés à Comessé, ben, ils se sont retrouvés dans le texte final. Bon, voilà, ça arrive. Donc, il faut à la fois ne pas avoir l'illusion que l'Église fait la loi, c'est pas vrai. Et en même temps, on a vraiment quelque chose à dire. Hein, et donc, il faut pouvoir utiliser cela. Alors, comment est-ce qu'on est organisé? Je vous dis d'un mot très simplement. Il y a un président. Actuellement, c'est Mgr Olrich, Jean-Claude Olrich, qui est l'archevêque de Luxembourg. Et puis, il y a quatre vice-présidents. Alors, normalement, c'est par les zones géographiques, nord, sud, est, ouest. On ne définit pas très bien quel pays fait partie de quel groupe. Donc, actuellement, pour le nord, c'est l'Irlande. Le sud, c'est l'Italie. L'ouest, c'est l'Allemagne. Et l'est, c'est la République tchèque. Et puis, il y a trois commissions, commission des affaires juridiques, des affaires extérieures et des affaires sociales. Et moi, je suis le président de la commission des affaires sociales. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces commissions? Eh bien, on suit donc toute l'actualité européenne sur ces questions-là. Et puis, on a des réunions au moins deux fois par an avec des experts qui viennent des différentes conférences épiscopales membres, qui sont des laïcs, hein, qui sont envoyés chacun par leur conférence épiscopale. Et on rencontre des responsables de l'Union européenne dans les thématiques concernées. Au niveau global, on a deux assemblées de tous les évêques par an. Et là aussi, on rencontre les responsables européens à haut niveau. Par exemple, à la réunion là, du mois de mars, c'est Jean-Claude Juncker qui est venu pour faire une espèce de compte-rendu de son mandat, dire un peu ce qu'il avait essayé de faire, ce qui avait réussi, ce qui n'avait pas réussi, pourquoi, enfin voilà, bon. On a eu aussi, la fois d'avant, Michel Barnier qui est venu parler du Brexit, et où est-ce qu'ils en étaient dans les négociations, quelles difficultés il y avait. On a eu Madame Mogherini, qui est la représentante pour la politique extérieure de l'Union européenne, qui est italienne, et qui est venue aussi faire un petit peu un état des relations avec les différents pays ailleurs dans le monde. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a un vrai travail qui se fait là. Alors pour vous donner un exemple aussi un peu concret, mais je ne vais pas le développer parce que l'heure tourne, c'est la commission là, des affaires sociales. On a publié au mois de novembre dernier un petit opuscule que vous pouvez trouver sur le site aussi de la Comessé sur la question de l'évolution et de l'avenir du travail en Europe. Voilà. À partir d'un certain nombre de constats, le fait de dire que, donc on essaie de s'enraciner dans l'enseignement social de l'Église et essayer de dire qu'aujourd'hui, on voit que la digitalisation, l'informatisation de la société a des conséquences très importantes sur le travail, bon, et que ça pose des questions. Il y a aussi la difficulté pour les jeunes à rentrer sur le marché du travail de manière durable. On voit que des contrats précaires qui empêchent de constituer une vie de famille ou qui empêchent un logement décent, etc. Et puis, il y a aussi la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, vie familiale, qui est de plus en plus floue. Comment on répond aux mails? Est-ce qu'on travaille le dimanche? Est-ce qu'on répond à son patron pendant les vacances? Enfin, voilà, ce genre de choses. Bon, toutes ces questions-là. Et à partir de là, nous avons élaboré 17 propositions, donc je ne vais pas toutes pour les regarder, qui sont parfois assez techniques, assez précises, mais aussi assez concrètes sur la législation européenne en matière sociale. Donc ce document, qu'est-ce qu'on en a fait? Ben, on a été le présenter à la Commission, on a été le présenter à des parlementaires qui suivent ces questions-là au Parlement européen, au Conseil économique et social européen, puisqu'il y a aussi un Conseil économique et social européen. Ensuite, on a organisé un colloque à Bruxelles avec des gens qui sont venus de toute l'Europe pour présenter notre document et le partager et discuter dessus. Et puis, j'ai été aussi le présenter à Milan à une réunion des syndicats chrétiens européens. Voilà, pour vous dire un peu. Bon, enfin, ce texte, c'est pas pour défendre, parce qu'il a été fait largement avant que j'arrive. Moi, j'ai fait la touche finale, hein, mais il était déjà travaillé. Je pense que c'est plutôt un bon texte. Voilà. mais pour vous dire qu'il y a un travail quand même très, très concret qui peut se faire. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse tout à l'heure dans le temps des questions. Alors, pour terminer, je vais encore dire trois choses brèves. La première, c'est, j'ai un tout petit peu dit aussi, c'est comment est-ce que nous devons penser les questions européennes aussi vues de l'extérieur, et pas seulement en fonction des problèmes intra-européens. Je vais vous lire un petit passage du discours de Mgr Pontier à l'Assemblée des évêques français à Lourdes au mois de novembre dernier. Il dit ceci, « En 20 ans, le monde a profondément changé et n'est plus centré sur l'Europe. L'Église aussi a beaucoup changé et s'est internationalisée dans ses références culturelles et son mode de gouvernement, le fait que le pape ne soit pas européen. » Bon, première fois. La question est bien de voir si ce que l'Europe a pu apporter au monde, dans sa compréhension de l'homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur d'autres continents. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans l'équilibre géopolitique du monde, on voit bien que les États-Unis de M. Trump, ben voilà, ils se referment sur eux-mêmes, ils défendent leurs intérêts et ne s'occupent pas tellement, la notion d'allié n'a plus vraiment de consistance. Bon, c'est un point. La Russie de M. Poutine, pareil, il avance ses pions. Et la Chine, là aussi, son propre agenda économique et derrière politique. Et les routes de la soie, etc. Et donc, qui va être porteur d'un certain nombre de ces valeurs qui sont attendues et regardées ailleurs dans le monde? Je pense à l'Amérique du Sud, je pense à l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, je pense à l'Afrique aussi, enfin, les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui essaient de se réunir aussi, eh bien, si l'Europe ne montre pas le chemin, personne ne le fera. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est important aussi pour l'avenir du monde. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, qui est beaucoup plus brève, c'est de vous inciter à lire, si vous l'avez déjà fait, le communiqué qui a été fait par les évêques de France à propos des élections, donc où on invite évidemment à voter aux élections européennes, et en rappelant un certain nombre de choses que je vous ai dites. Je vous invite à le voir sur le site, dans l'église de Besançon.
Dans l'excellente revue, voilà. L'église de Besançon,
relisez-le tranquillement. Et voilà.
Numéro 8. Voilà.
Très bien. Et la troisième chose, et je vais terminer par là-dessus, c'est, je voudrais vous lire, la prière pour l'Europe, qui a été écrite par le cardinal Martini, qui était l'archevêque de Milan, en 2005. Il faut prier pour l'Europe. Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints. Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs. Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre. Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit, fondée non seulement sur les accords économiques, mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles. Une Europe capable de réconciliation, ethnique et œcuménique, prompte à accueillir l'étranger, respectueuse de toute dignité. Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain, la liberté et la paix. Amen. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Voilà, merci pour cette première intervention complète, précise. Donc, vous pouvez garder vos questions. On va continuer avec deux courts témoignages ancrés sur nos réalités. Alors, Michel et Antoine pour commencer, et puis après Manon. Elle nous est proposée par la mobilisation de notre diocèse pour l'accueil de l'étranger. Donc elle sera double voix, Antoine Aumônier qui est délégué régional du Secours catholique et puis Michel Gazelle qui est un bénévole d'une paroisse de Besançon, voilà, qui agit pour l'accueil de l'étranger. Donc on regarde une petite vidéo, une petite présentation, une seconde présentation du mouvement rural des jeunes chrétiens et après nous pourrons débattre et dialoguer.